Vous écoutez On lit pour vous.
Une saison hâtive pour le sirop d'érable. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir. Les grandes chaleurs de février et de mars 2024 ne sont pas au goût de tous. La récolte de sirop d'érable a commencé très tôt cette année et la chaleur ces jours-ci menace de freiner net cette saison qui s'annonce cruciale pour le marché. Février est à peine derrière nous, mais Pierre Cormier, maître sucrier, a déjà réalisé 25 % d'une bonne production dans sa cabane des Cantons de l'Est. Citation. « C'est très bien, sauf qu'hier, dans la cabane, j'étais en T-shirt. » Fin de citation. Bien qu'ils se disent optimistes de nature, les températures oscillant autour de 10 degrés au-dessus des normales de saison l'inquiètent. Trop de chaleur trop tôt annoncerait la fin de la saison des sucres 2024. Citation. « Des nuits chaudes, c'est catastrophique, dit-il. On voit ça au mois d'avril habituellement. Au début mars, on ne voit jamais ça. » Fin de citation. Son inquiétude par rapport au temps chaud se retrouve dans bien des cabanes à sucre du Québec, selon Tim Rademacher, docteur en écophysiologie forestière et chercheur au centre ASER, laboratoire spécialisé dans la science de l'érable. Citation. « Ça a commencé tôt, ça a commencé fort. » Mais est-ce qu'il va faire assez froid en mars pour que ça continue? Fin de citation. La saison dure habituellement de 5 à 7 semaines et cesse quand les érables ont accumulé de la température, explique le scientifique. Chaque jour où le mercure affiche plus de 5 degrés, l'arbre emmagasine en quelque sorte la chaleur. Au-delà d'un certain nombre de degrés accumulés, l'érable commence à bourgeonner. Dès lors, la sève goûte amère ou ne coule simplement plus. Plus les journées sont intensément chaudes, plus se rapproche rapidement cette fatidique date du bourgeonnement. Citation. Le seuil exact pour l'érable, on ne le sait pas encore. Mais jusqu'à maintenant, avec les températures qu'on a eues, on a déjà accumulé beaucoup de degrés. Fin de citation, poursuit M. Rademacher. Des réserves presque à sec. Devant la menace climatique, le porte-parole de l'industrie se montre rassurant. Citation. On n'envisage pas qu'il manque de sirop. Fin de citation. Assure Joël Vaudeville, des communications des producteurs et productrices acéricoles du Québec, PPAQ. Une saison 2024 décevante viendrait quand même porter un coup dur à la réserve stratégique de sirop d'érable du Québec, qui sert à stabiliser les prix à long terme. Les stocks de cet entrepôt secret, où dorment des millions de litres de liquide, ont atteint un niveau extrêmement bas. Il n'y reste plus que 15 millions de livres de sirop d'érable. En comparaison, les stocks stratégiques s'élevaient à 100 millions de livres en 2019. Dans les caves personnelles des érablières du Québec se cachent tout de même 50 autres millions de livres. Or, si la saison 2024 s'avère trop maigre, les réserves pourraient s'amenuiser davantage, ce qui menacerait la stabilité des prix. Des profits qui fondent comme neige au soleil. Les hivers de plus en plus doux risquent aussi de faire fondre les profits des producteurs, explique Tim Rademacher, car les érables ont besoin de froid pour confectionner leur sucre. Durant l'été, l'arbre emmagasine son énergie grâce à la photosynthèse sous forme d'amidon, un sucre complexe. L'érable à sucre transforme tranquillement cet amidon en saccharose, un sucre simple, pour combattre les froids hivernaux, car ce sucre est aussi une forme d'antigel. C'est ce saccharose qui donne à la sève son goût si délicieux. Moins le froid est intense durant l'hiver, moins il y a transformation d'amidon en saccharose et moins l'eau d'érable sort sucrée au printemps. Enfin, moins l'eau d'érable est sucrée, plus cher on doit payer pour la faire bouillir et la transformer en sirop. À ces risques de chaleur nuisible, s'ajoutent de nouveaux insectes ravageurs et les vents violents qui menacent de plus en plus cette industrie phare au Québec. Toutes ces incertitudes pour l'avenir ne découragent pas les producteurs québécois, comme Pierre Cormier qui compte bien léguer son entreprise à ses enfants. Citation. On a beaucoup plus de techniques et de connaissances qu'à l'époque. Fin de citation. Pour compenser ces facteurs, dit-il. Les acériculteurs sont en réalité plus nombreux que jamais à produire leur propre sirop. Quelque 8000 entreprises ont entaillé des érables cette année, une hausse de 739 par rapport à l'an dernier. Cette augmentation autorisée par les PPAQ a inversé le déclin du nombre de productions agricoles au Québec pour la première fois en près de 100 ans. C'était « Une saison hâtive pour le sirop d'érable », un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir.
La petite hermine, de retour à Québec. Un texte de Dave Noël, paru le 27 février 2024 dans Le Devoir. Les restes présumés de la petite hermine, l'un des trois navires de l'expédition commandée par Jacques Cartier en 1535, reviendront à Québec ce printemps pour être exposés au Musée de la civilisation. Les artefacts, dont l'ancienneté était contestée depuis leur découverte, pourraient dater du 16e siècle, selon une analyse au carbone 14 réalisée par le Musée d'histoire de Saint-Malo, la ville natale de l'explorateur. Le bois de l'une des pièces de recouvrement interne de la coque a été coupé entre 1434 et 1620. L'arbre qui a servi à la fabrication d'un morceau de la quille du navire a, quant à lui, été abattu entre 1520 et 1799. Ces résultats préliminaires doivent être validés d'ici le début du mois de mai par une étude archéodendrométrique qui a été réalisée en novembre 2023 sur un fragment de cape de mouton, une pièce de gréement en bois. Les visiteurs pourront contempler les débris de cette épave à compter du 30 mai 2024 dans le cadre de l'exposition permanente « Le Québec », autrement dit, qui doit remplacer le temps des Québécois. Ces objets épousaient bien le thème de la rencontre, qui est le fil conducteur de l'exposition, explique la relationniste de presse du Musée de la civilisation, Agnès Dufour. L'incertitude entourant la datation des artefacts ne compromet pas leur présentation. On le sait, l'histoire est en perpétuelle mouvance. Elle se transforme, elle suscite les échanges, précise Madame Dufour. Scorbut. Les artefacts attendus à Québec à la mi-avril sont traditionnellement associés à la Petite Hermine, un bâtiment dont les cales pouvaient contenir jusqu'à 60 tonneaux de vivres et de marchandises. À l'été 1535, la nef remonte le Saint-Laurent aux côtés de la Grande Hermine et de l'Émérillon, les deux autres navires de l'expédition de Jacques Cartier. La petite Hermine aurait également accompagné l'explorateur malouin un an plus tôt lors de son escale de Gaspé. Marqué par la prise de possession de ce territoire autochtone au nom du roi François Ier. La traversée de l'Atlantique de 1535 est rude pour les matelots de Saint-Malo qui passent 118 jours à bord de leur navire avant de jeter l'ancre devant le Cap aux Diamants à Québec. L'hiver sera encore pire pour les Malouins, dont plusieurs mourront des suites du scorbut. Le fléau obligera d'ailleurs Cartier à abandonner la petite hermine à proximité du village iroquoien de Stadaconé en mai 1536, faute de matelots pour ramener le bâtiment en France. Épave. En 1843, la carcasse d'un navire ancien émerge à l'embouchure du ruisseau Saint-Michel, l'un des affluents de la rivière Saint-Charles à Québec. Nous sommes à 500 mètres seulement du parc Cartier-Brébeuf actuel, emplacement où l'équipage de Cartier aurait hiverné en 1535-1536. La coque effondrée gît à fleur d'eau dans la vase. Elle est d'ailleurs utilisée comme ponton de fortune par les chasseurs de canards et de perdrix des environs. Un vaisseau ainsi enfoui est un fait sans exemple en Canada, déclare le bibliophile Amable Berthelot en 1844 lors d'une conférence relatant la découverte de l'année précédente. De mémoire d'homme, l'endroit où on l'a trouvé ainsi placé n'était plus navigable pour un bâtiment de son port, ce qui doit lui faire supposer plusieurs siècles d'existence. L'engouement populaire pour Cartier, le découvreur du Canada, amène la Société littéraire et historique de Québec à financer la fouille du site. Le prélèvement d'une partie des vestiges entraîne toutefois la destruction de la coque. Il eût peut-être mieux valu pour la science de la laisser durer autant que possible pour la satisfaction de la présente génération et de celle à venir, regrette Berthelot. Le passionné d'histoire souhaite néanmoins la poursuite des fouilles afin que les ossements des scorbutiques inhumés à l'hiver 1535-1536 soient retrouvés. Si l'on déblayait le fond de ce bassin jusqu'à la profondeur de l'endroit où reposait le fond de ce vaisseau, il est probable que l'on y trouverait les ossements des 25 Français morts du scorbut que Cartier fit cacher sous la neige. Sceptique. Les artefacts extraits de la vase en 1843 sont divisés en deux lots. Le premier est brièvement exposé au Parlement de la Côte de la Montagne, à Québec, où ils seront détruits lors de son incendie en 1854. Le second est expédié à Saint-Malo, où un comité d'experts confirme l'ancienneté des débris à partir d'un simple examen visuel. Les conclusions du comité sont contestées dès 1896 par l'historien québécois Narcisse Eutrope Dionne, qui aperçoit les artefacts lors de son voyage de noces en Bretagne. Pour être franc, j'étais décidé d'avance à ne pas me laisser convaincre, relate l'érudit dans un ouvrage paru en 1913. Nos cousins de Saint-Malo sont bretons, et quand on est breton, on se déjuge difficilement. Les restes du navire passent de l'hôtel de ville de Saint-Malo à son château médiéval en 1927. Ils échappent de peu aux bombardements alliés qui suivent le débarquement de Normandie à l'été de 1944. Le reliquaire de bois et de métal est récupéré au début des années 1950 par le musée d'histoire de Saint-Malo, qui l'expose jusqu'en 2019, en dépit des doutes semés par Narcisse Eutrope Dionne. Les analyses au carbone 14, réalisées l'été dernier à l'initiative de l'historien québécois Bernard Allaire, ont bousculé le scepticisme ambiant. Les artefacts attribués à la petite Hermine seront de retour à Saint-Malo en 2028, à temps pour l'ouverture du nouveau musée maritime de la cité corsaire. C'était « La petite Hermine, de retour à Québec », un texte de Dave Noël, paru le 27 février 2024 dans Le Devoir.
Thierry Ardisson, Enfant terrible de la télé, un texte d'Étienne Paré, paru le 6 mars 2024 dans Le Devoir. Au Québec, on le connaît surtout comme le créateur du format de « Tout le monde en parle ». Mais en France, Thierry Ardisson est considéré comme un monstre sacré dans l'industrie de la télé. Aussi provocateur que novateur, il a révolutionné la formule du talk show par son impudeur, n'hésitant pas à embrasser Bruce Willis sur la bouche ou demander à un ancien premier ministre si sucer s'est trompé. C'était l'époque. Celle d'avant le politiquement correct. Celle où la télévision n'était pas concurrencée par Internet. En s'y replongeant, Thierry Ardisson est forcément tenté par la nostalgie. Je suis obligée de dire que j'ai connu la meilleure époque pour faire de la télé. On avait de l'argent, on avait de la liberté, et il y avait surtout des gens qui avaient quelque chose à dire. J'ai quand même interviewé Serge Gainsbourg et Jean d'Ormesson. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Si je faisais encore une émission comme Tout le monde en parle, c'est terrible à dire, mais je ne saurais pas qui inviter, confesse-t-il. Pas que les personnalités aujourd'hui soient moins intéressantes ou moins intelligentes, tient-il à préciser. C'est qu'elles parlent beaucoup moins qu'avant. Tout est devenu contrôlé par les attachés de presse, déplore Thierry Ardisson en vapotant. L'animateur de 75 ans a arrêté de fumer, mais il n'est pas pour autant rentré dans le rang. L'homme en noir, comme on le surnomme outre-Atlantique, parce qu'il est toujours habillé en foncé, n'a rien perdu de son franc-parler. Il a d'ailleurs été d'une franchise absolue lorsqu'il a rencontré Le Devoir en janvier dernier, alors qu'il se trouvait à Montréal pour l'enregistrement de l'émission spéciale célébrant les 20 ans de Tout le monde en parle au Québec. L'émission sera diffusée dimanche. L'occasion de constater que le talk show animé par Guy Lepage s'est éloigné du format inventé par Thierry Ardisson. Le grand rendez-vous dominical de Radio-Canada est maintenant en direct. Le fou du roi a plus ou moins disparu. Exit aussi les dîners de cons. La version québécoise s'est grandement adoucie, elle qui était déjà édulcorée par rapport au « Tout le monde en parle » français. C'est devenu en fait une émission sociétale, beaucoup plus collée sur l'actualité. Comme Guy, que j'aime beaucoup, m'a expliqué, tu ne peux pas faire une entrevue biographique avec Stéphane Rousseau comme je le faisais quand ça fait 5 fois que tu l'invites. Forcément, l'émission a donc dû s'adapter et je trouve ça intéressant, car je me dis que c'est peut-être cette tangente aussi qu'aurait prise « Tout le monde en parle » en France si l'émission existait encore, indique celui qui a animé « Tout le monde en parle » de 1998 à 2006, avant que l'émission soit déprogrammée du service public parce qu'il en animait une autre sur une chaîne concurrente. Une pute et un archevêque. L'essence du format original demeure encore dans la version québécoise, rassemblée sur un même plateau, des gens qui, a priori, n'ont rien à voir entre eux. Une pute et un archevêque, comme le veut la formule que se plaît à répéter Thierry Ardisson. Dans les talk-shows américains, comme celui de David Letterman, l'invité est seul devant l'intervieweur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une émission où les invités restaient après leur entrevue. Ça donnait lieu à plein de moments bizarres, car des gens qui évoluaient dans des réalités complètement opposées se retrouvaient à se croiser. Sans le savoir, j'ai inventé une formule. Des moments bizarres, il y en a eu plusieurs durant les 8 saisons de la version française de « Tout le monde en parle ». Comme quand Thierry Ardisson a complètement déstabilisé Matt Damon et Brad Pitt en leur proposant des filles et de la drogue. Ou cette fois où l'actrice Mila Jovovich a perdu la carte, jetant son verre d'eau avant de quitter le plateau, car Thierry Ardisson lui avait rappelé que son père avait passé 8 ans en prison. L'écrivain Frédéric Beigbeder, lui, n'avait pas eu le temps de se rendre sur le plateau, lui qui gisait dans son vomi, dans sa loge, tellement il avait bu. L'alcool, ça désinhibe. C'est le secret pour que les invités s'ouvrent. En coulisses, je leur laissais de la vodka, du champagne, tout ce qu'ils voulaient. Et comme ils attendaient longtemps, ils étaient souvent complètement torchés quand ils arrivaient sur le plateau, lance en s'esclaffant l'animateur et producteur. La morale n'a jamais animé ce baby-boomer assumé, nourri par les idéaux libertaires de mai 68. La bonne télé n'est pas vertueuse. Cela étant dit, Thierry Ardisson ne croit pas avoir contribué à abaisser le niveau, bien au contraire. J'ai toujours pensé que la télévision publique devait être un rempart à la baisse du niveau en culture. Mais encore faut-il que la culture soit digeste. Donc oui, je pouvais interviewer une bimbo avec de gros seins, mais il y avait Umberto Eco ou Bret Easton Ellis après. Donc plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler d'eux et qui n'auraient jamais été portés à écouter l'une de leurs entrevues ont pu les découvrir grâce à moi, de revendiquer celui qui a grandi dans une famille modeste et qui s'est élevé intellectuellement grâce à la télévision quand il était enfant. Autre temps, autre mœurs. Les archives de Tout le monde en parle peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de Thierry Ardisson. S'y trouvent aussi des extraits des autres émissions phares qu'il a animées, comme Paris dernière, Salut les terriens et 93 Faubourg Saint-Honoré, où différentes personnalités venaient souper dans son appartement parisien. Mais pas encore de traces de sa dernière émission en date, Hôtel du Temps, dans laquelle il interviewe des personnalités décédées, comme Dalida et Coluche, qui reprennent vie grâce à l'intelligence artificielle. Thierry Ardisson, qui vient du monde de la publicité, a toujours eu un sens de l'esthétique. En regardant ses archives, on s'étonne que certaines de ses émissions aient aussi bien vieilli sur la forme. Quid du fond? Il y a des choses qui ont bien vieilli, d'autres moins. L'attitude envers les femmes, la façon que l'on avait de les complimenter sur leur physique, ça ne passerait plus aujourd'hui. C'était très macho. Quand je fais des entrevues aujourd'hui, c'est quelque chose à quoi je fais gaffe, reconnaît Thierry Ardisson. L'animateur a été très critiqué par des féministes en 2011, au moment où le patron du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, a été arrêté après avoir été accusé de viol par une femme de chambre. Quelques années avant, la journaliste Tristane Bannon avait raconté, durant l'enregistrement de 93 Faubourg Saint-Honoré, avoir été agressée par l'ancien ministre socialiste. La réaction de Thierry Ardisson et des invités avait été d'en rire. « On réagirait différemment aujourd'hui, convient-il. Le monde a changé, Thierry Ardisson aussi. Et tout n'est pas à jeter dans l'époque actuelle. Thierry Ardisson est emballé par la liberté créative qu'offre YouTube. Quant à la télé, il y a un creux de vague actuellement, mais il est encore trop tôt pour inscrire son épitaphe, croit-il. C'est sur YouTube que vont émerger les nouveaux animateurs, ceux qui innovent. Mais à un moment, on ne peut pas juste faire des émissions dans sa chambre avec une caméra pourrie. Il faut de l'argent pour produire des émissions de plus grande envergure. Et malheureusement, c'est toujours difficile monétiser des contenus sur YouTube. Tant que ce sera le cas, il y aura toujours une place pour la télé, prédit-il. C'était Thierry Ardisson, Enfant terrible de la télé, un texte d'Étienne Paré, paru le 6 mars 2024 dans Le Devoir.
Menace virale par le vent. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 février 2024 dans La Presse. Question de Jean Pellerin, un lecteur. Une épidémie pourrait-elle se propager par un vent chargé de particules microscopiques, mais contaminantes? Oui. D'une personne à une autre, sur quelques mètres dans certaines conditions propices. Mais au-delà de 30 mètres, la dilution rend pratiquement impossible toute contamination. S'il y a un vent fort, l'air qu'une personne infectée exhale est presque tout de suite dilué, explique Sean Clouston, un épidémiologiste de l'Université Stony Brook, en banlieue de New York, qui a publié une étude sur le sujet en 2021 dans BMC Infectious Disease. En deçà d'une certaine concentration de virus dans l'air, il n'y a pas de contamination possible. La dose de particules virales qu'on inspire avec chaque respiration est trop faible. Mais s'il y a un vent faible, une personne peut en infecter plusieurs autres. Ça ne dépendrait pas nécessairement de la direction du vent, à moins qu'il s'agisse d'un endroit complètement ouvert, sans obstacle. Personne, par contre, n'a pu démontrer une contamination à plus de 30 mètres de distance. Le phénomène est similaire à celui des édifices bien ventilés. Quand on change l'air plus souvent, on dilue la quantité de virus présente dans un volume d'air. Alors, il y a moins de contamination entre personnes. L'étude du Dr. Clouston comparait le vent et les taux de COVID-19 dans le comté de Suffolk, où est situé Stony Brook, entre mars et décembre 2020. Il tenait compte de la température et du nombre de tests de COVID-19 faits par les autorités. Quand la vitesse du vent était inférieur à 8,85 km/h, le taux de COVID-19 dans la population était 45% plus élevé qu'avec un vent supérieur à 8,85 km/h. Il y a des études qui ont montré une transmission par le vent à grande distance, mais sans tenir compte du nombre de tests, dit le Dr. Clouston. Quand on fait plus de tests, il est normal d'avoir un plus haut taux de COVID-19. Un exemple d'une étude sans contrôle du nombre de tests a été publié en juin 2022 sur le site de prépublication scientifique Research Square par des virologistes écossais. L'absence de contrôle de la quantité de tests explique probablement qu'elle n'a pas encore été publiée, dit le Dr. Clouston. Il est aussi important de tenir compte de la météo. On voit que les taux de contamination plus élevés semblent liés à des vents du nord, vraisemblablement plus froids en hiver. Ça peut mener les gens à passer moins de temps dehors et plus de temps à l'intérieur ou dans les transports en commun, là où le taux de transmission entre personnes est plus élevé. L'auteur principal de l'étude écossaise, Sandy Pramalingan de l'Université d'Édimbourg, confirme qu'elle n'a pas encore été acceptée pour la publication par une revue avec comité de lecture. Une étude publiée en 2018 par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology dans le Lancet Planetary Health montrait une contamination plus élevée avec la malaria en Égypte quand le vent était fort, à des distances de plusieurs kilomètres. Mais, comme dans ce cas, la transmission de la maladie se fait par le moustique. Il ne s'agit pas de transport de particules virales. Quelles questions restent à élucider au sujet du transport des virus par le vent? Il faut maintenant tenir compte des obstacles au vent, dit le Dr. Clouston. Si elle est complètement protégée du vent, une terrasse de restaurant peut être un lieu presque aussi propice à la contamination entre personnes que l'intérieur du restaurant. En savoir plus, source INSPQ. 838. Nombre de décès liés à la COVID-19 au Québec dans la semaine du 26 avril 2020, le pic de la pandémie. 31. Nombre de décès liés à la COVID-19 au Québec dans la semaine du 4 février 2024. C'était « Menace virale par le vent », un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 février 2024 dans La Presse.